Chers amis en Christ, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit pleinement multipliée. Dans mes messages précédents consacrés au thème de la victoire sur le découragement, nous avons parlé en premier lieu de la nature du mal, ce qu'est vraiment le découragement. Ensuite, j'ai évoqué avec vous les causes du découragement dans notre vie. Le dernier message nous a amené à considérer un premier sentier de victoire. Ce n'est pas le seul, mais c'est d'apprendre à réorienter notre regard, à apprendre à voir les choses comme le Seigneur désire que nous les voyons avec sa grâce. J'aimerais aujourd'hui tracer un second sentier de victoire sur le découragement. C'est la parole de Dieu qui nous trace cette voie. Permettez-moi de commencer par une anecdote. Un capitaine avait ordonné à un moussaillon de grimper pour la première fois au sommet d'un des mâts du navire. Le moussaillon grimpe. Arrivé au but, il triomphe, il regarde le pont du navire, et à ce moment-là, il est pris de vertige, il se met à vaciller dangereusement, et alors qu'il était sur le point de lâcher prise, le capitaine a crié « Regarde en haut !» Et l'apprenti marin s'empressa bien sûr d'obéir, et son vertige cessa à l'instant même. Regarde en haut. Et c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, qui êtes peut-être pris de vertige sur le plan psychique, moral, spirituel, alors que tu sens tes forces spirituelles t'abandonner devant une circonstance particulièrement difficile, alors que tu es sur le point de vaciller, j'ai envie de te crier comme le capitaine du navire à son moussaillon, « Regarde en haut !» Mais vous allez me dire, mais comment regarder en haut ? Alors j'aimerais aujourd'hui revenir avec vous sur l'histoire du prophète Élie. Il avait rassemblé, vous le savez, le peuple au Carmel. En fin de journée, il avait construit son autel. Il a invoqué le Seigneur, le feu de l'Éternel, en réponse à la prière d'Élie, est tombé sur l'autel. Le peuple a été saisi par la manifestation de la puissance de Dieu. Il est tombé sur sa face et il a confessé « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Le prophète a fait saisir tous les faux prophètes de Baal et ils ont été mis à mort. À la suite de cela, je lis dans la parole de Dieu, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, verset 41. Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » Et à la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit « Monte » et dit à Achab « Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Et vous vous souvenez de ce que l'apôtre Jacques écrit à ce sujet des siècles plus tard, « Élie était un homme de la même nature que nous. » Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie est un homme de prière. Mais Achab rapporte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, et à ce moment-là, je l'ai dit dans mes messages précédents, le prophète Élie vacille. Mais j'aimerais vous poser une question. Après avoir reçu la lettre de Jézabel, est-ce que vous entendez Élie prier? Nullement. Il n'y a aucun regard de sa part qui se tourne vers le ciel. La vie de prière du prophète est en panne. Il n'y a plus de dialogue salutaire avec le Dieu vivant, le Dieu vivant qui, pourtant, reste le seul détenteur de la solution au problème d'Élie. L'homme habitué à se tenir devant l'Éternel est en train de faire la grève de la prière. Il se contente de se parler à lui-même, et comme je l'ai dit aussi dans mon message précédent, selon ce que dit le texte hébreu au sens littéral, Élie va vers son être, il va vers son âme. Alors oui, il va faire un bout de prière quand il arrive dans le désert et qu'il s'assied sous son genêt, il va demander au Seigneur la mort. Mais ça, c'est pas la prière que le Seigneur attendait. Alors Élie a reçu effectivement une lettre de menace très très forte de la part de la reine Jézabel. Mais d'autres ont reçu une lettre au contenu tout aussi catastrophique. Et ils n'ont pas laissé leur regard se décrocher du Seigneur. Je pense à Néhémie, cet homme de restauration qui revient sur la terre d'Israël, qui est saisi de la vision de Dieu concernant le travail à accomplir, un travail de reconstruction, un travail de restauration, et nous savons comment Néhémie va être un instrument dans les mains du Seigneur pour reconstruire ce qui a été démoli. Il va encourager le peuple, stimuler pour que chacun se mette à la tâche et reconstruise les murailles de Jérusalem. Et c'est effectivement ce qu'ils font. Mais vous savez, quand on reconstruit pour le Seigneur, avec le Seigneur, ce que le diable avait démoli, il est certain que l'ennemi n'est pas particulièrement heureux de la situation. Et c'est ce qui s'est passé pour Néhémie et pour le peuple d'Israël. Je lis dans le livre de Néhémie au chapitre 6, le verset 1er, et il y dit, Néhémie dit, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes, lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Alors ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Le diable est persévérant dans ses ruses et dans ses mauvais desseins. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. À nous d'être aussi déterminés et plus même que notre adversaire. Sambala m'envoya ce message 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Élie a reçu une lettre de la reine Jézabel et il a vacillé. Néhémie va recevoir une lettre de la part de ses ennemis, une lettre où il nous est dit qu'il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda, et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambala, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, « Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. » Voilà une lettre qui est chargée de fausses accusations, qui est chargée d'une volonté déterminée d'intimider, de décourager Néhémie et les siens. Mais devant cette lettre, Néhémie va choisir de se fortifier dans le Seigneur. Il va choisir ce sentier qui consiste à demander l'aide du Seigneur pour ne pas sombrer dans le découragement. J'ai arrêté ma lecture au verset 9, mais il reste encore une ligne à ce verset. Écoutez bien, c'est Néhémie qui s'adresse à Dieu. « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Néhémie n'a pas mis sa vie de prière en grève. Il n'a pas rompu sa communion avec le Seigneur, et dans un moment où le découragement aurait pu frapper violemment à la porte de son cœur, Néhémie choisit de demander vigoureusement l'aide de son Dieu. Mais l'ennemi ne va pas en rester là. Je lis la suite au verset 10. « Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Mehatabéel. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Ça paraît être plein de bonnes intentions, mais un homme comme Néhémie n'avait pas la permission d'entrer dans le temple. Et il répond « Un homme comme moi prendre la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Une petite parenthèse, quand vous avez des conseils de la part de gens qui ont peut-être de bonnes intentions, mais qui conseillent des choses contraires à la volonté de Dieu, contraires à la parole de Dieu, reconnaissez que ça ne vient pas du Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire par rapport à la parole qu'il a lui-même inspirée. Néhémie ajoute, « Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et en le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. » Est-ce que Néhémie va laisser maintenant le découragement s'installer dans son cœur ? Je lis la ligne suivante, le verset 14. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Là encore, Néhémie prend le sentier de la prière, de la recherche de la face de Dieu. Il vient demander l'aide du Seigneur, il vient demander son secours, et c'est ce qui va être sa force. Nous connaissons également un épisode de la vie du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias a été confronté aux attaques du roi d'Assyrie et le roi d'Assyrie ne pensait ne faire qu'une bouchée d'Israël, d'Ézéchias et de Jérusalem. Alors il a lancé ses attaques, il a dû rebrousser un peu chemin parce qu'il a eu des ennuis personnels, mais il ne désespérait pas de relancer ses attaques et de triompher d'Israël. Et il va lui aussi envoyer une lettre au roi Ézéchias par le moyen de l'un de ses serviteurs. Et je lis ceci dans le second livre des rois, au chapitre 19, le verset 14. Chapitre 19 du second livre des rois, verset 14. Alors que le roi d'Israël vient de recevoir la lettre, une lettre pleine de menaces, pleine d'intimidation, bien écrite pour décourager Ézéchias, la parole de Dieu me dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Est-ce qu'il va réagir comme Élie, après avoir reçu la lettre de Jézabel? Ézéchias prend la lettre de la main des messagers et il la lit. Puis la parole de Dieu me dit, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Au fond, il a dit au Seigneur, en quelque sorte, j'ai lu la lettre, ce serait bien que tu la lises aussi, bien que le Seigneur la connaissait par cœur, mais ce n'est pas sans raison qu'Ézéchias a déployé la lettre là, dans le temple, devant le Seigneur. C'est comme s'il disait au Seigneur, écoute, lis cette lettre, lis-la bien, parce que c'est une lettre d'intimidation, de menace, on est dans une sérieuse difficulté. Il a donc déployé la lettre devant l'Éternel, et ensuite, il adresse cette prière au Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, je vous ai dit au début de mon message, regarde en haut. Eh bien, si vous voulez voir le Seigneur ou avoir la connaissance du Seigneur, un Dieu assis sur les chérubins, c'est pas en regardant en bas que vous aurez cette vision-là. C'est en levant les yeux vers le haut. Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant. Et la suite, on la connaît. Dieu a bien lu la lettre. Dieu s'est occupé du roi d'Assyrie. Il a secouru le peuple d'Israël. Il a sauvé le roi Ézéchias de tout ce mauvais pas et Dieu a triomphé de la Syrie. En utilisant spontanément l'arme de la prière au bon moment, ces hommes de Dieu ont regardé en haut. Au lieu d'être saisis de vertige, au lieu de vaciller, au lieu de lâcher prise, Dieu est intervenu en leur faveur pour contrer l'ennemi. Ils n'ont pas réagi comme Élie, mais dans leur bonne réaction, la réaction spontanée, spirituelle, celle de se tourner vers le Seigneur, ils ont eu la victoire sur le découragement. Le psalmiste dit, au psaume 34, verset 19, « L'Éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et nous savons ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 6, « Dieu console ceux qui sont abattus. » J'en viendrai maintenant à une expérience dans la vie de David. Nous avons besoin de considérer son témoignage parce que lui aussi a fait l'expérience de l'intervention puissante de son Dieu. Il écrit au psaume 40, les versets 2 à 4, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Et puis, au psaume 30, les versets 2 à 4, David dit encore « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé ». Notez bien cela, « tu m'as relevé ». Mais le texte hébreu dit littéralement « tu m'as retiré du puits ». Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Ah ben le puits était profond, hein. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Et puisque nous parlons de puits, puisque nous parlons de fosse, j'aimerais m'entretenir avec vous quelques instants concernant le prophète Jérémie. Rappelons-nous l'une des épreuves du prophète Jérémie. Il a prophétisé dans un temps extrêmement difficile, et alors qu'il avait le message de Dieu, un message inspiré, un message révélé, alors qu'il s'adressait au peuple de Dieu, le message, loin d'être reçu, a été violemment rejeté. Et quand on rejette le message, on rejette du même coup le messager. Quand on s'en prend au message, on s'en prend également à celui qui apporte le message. Alors je lis dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 38. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pachour, Yukal, fils de Shelemia, et Pachour, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Le message n'était pas un message de victoire, c'est un message qui était chargé de folie pour la raison humaine, mais nous savons bien que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et quand Dieu nous parle, même si cela contrecarre notre raison, notre sécurité, c'est toujours de faire ce que Dieu nous demande. Alors les chefs dirent au roi, les chefs, hein, l'opposition, elle est partie des chefs. Les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort. Il parlait de Jérémie. Car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Quand on a le cœur fermé à la vérité, au message de Dieu, on déforme les desseins du Seigneur. Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkia, fils du roi, c'est-à-dire membre de la famille royale, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Quels étaient les sentiments de Jérémie à ce moment-là? Je vous laisse les imaginer. La situation est désespérée, la mort assurée. Maintenant, posons-nous la question. Quels sont nos sentiments dans la citerne de l'épreuve. Mon frère, ma sœur, quels sont tes sentiments, tes réactions dans la boue de ton découragement, de ton puits? Est-ce qu'il ne ressemble pas à ce moment-là à ceux de Jérémie? Nous comparons notre état présent à ce que nous étions avant de sombrer dans le découragement. Et puis là, au plus fort de la difficulté, au fond de notre puits, nous enfonçons, nous aussi. Nous apercevons tout là-haut, à travers nos larmes, un petit rond de lumière. Et puis désespérés, nous disons que nous sommes tombés bien trop bas pour pouvoir remonter jusqu'en haut. Alors on regarde à droite, à gauche, la paroi de la citerne nous paraît humide, glissante, et puis nous nous sentons tellement faibles. Et là le diable vient nous murmurer une parole terrible, « Jamais tu ne retrouveras ton bonheur passé ». Je voudrais vous lire la suite du texte dans le livre de Jérémie, chapitre 38, verset 7. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benyamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne, et Jérémie resta dans la cour de la prison. Alors que Jérémie pense qu'il ne retrouvera certainement jamais le bonheur passé, à un moment donné, à quel jour, je n'en sais rien, à quelle heure de la journée, je n'en sais rien, mais Jérémie a aperçu là-haut le visage bienveillant d'Ebed-Mélec qui apparaissait à l'entrée de la citerne. Et peu de temps après, Jérémie, ce fidèle serviteur de Dieu, remontait vers la lumière, hissé par des cordages d'amour, et il retrouvait avec soulagement la terre ferme sous ses pieds. C'en était terminé du fond de la fosse et de la boue. Et plus tard, il écrit dans ses lamentations, lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 55 à 57, « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. » Parce qu'en réalité, même si certainement dans ses pensées, l'adversaire a voulu le pilonner en lui laissant croire que c'en était terminé de lui, eh bien Jérémie, lui aussi, a choisi le sentier de la prière, de la demande de l'aide du Seigneur pour triompher du découragement, pour vaincre le découragement. « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. » Mon frère, ma sœur qui m'écoutait aujourd'hui, je voudrais vous dire ceci. dans son insondable miséricorde, Dieu a plus d'un Ebed-Melech en réserve pour vous faire sortir de la citerne du découragement dans laquelle vous êtes actuellement embourbé. Savez-vous ce que signifie Ebed-Melech? Serviteur du roi. Il l'était avant tout du roi des rois, et je peux vous dire que Dieu a des serviteurs multiples pour vous venir en aide. Et le serviteur du roi qui est venu sur notre terre, le serviteur par excellence, l'Ebed-Melech par excellence pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui, un jour, alors qu'il s'apprêtait à guérir un homme dont la main droite était sèche et qu'il a rencontré ce jour-là dans la synagogue de l'opposition de la part des Juifs et des chefs religieux, Jésus a dit à ces gens-là, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Dieu connaît ta fosse, Dieu connaît ton puits, Dieu connaît la boue dans laquelle tu enfonces, Dieu connaît toutes tes épreuves, mais il permet que ton Ebed-Melech, par excellence, le Seigneur Jésus, vienne à ton secours. Lui, il s'intéresse à toi et il t'aime comme s'il n'avait que toi à s'occuper. Et je vous demande de croire cela, Jésus s'occupe de nous comme s'il n'avait qu'une brebis. Il s'occupe de nous comme s'il n'avait que nous. Et il est capable de prendre un soin divin parfait de notre vie. Je voudrais revenir avant de conclure à un épisode de la vie de David. Nous trouvons cela dans le premier livre de Samuel, au chapitre 27 et au verset 1er. Dans mon message précédent, je vous ai parlé d'Élie et du décrochage de son regard. Eh bien, nous avons dans un épisode de la vie de David la même chose. Poursuivi par Saül, parce que vous connaissez les multiples difficultés et les multiples épreuves par lesquelles David est passé avec Saül, alors que Saül ne passe son temps qu'à poursuivre David pour le tuer, à un moment donné, et nous trouvons cela dans le premier livre de Samuel au chapitre 27, à un moment donné, David dit en lui-même, je lis, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, donc les ennemis, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Un drôle de calcul humain, ça. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à faire confiance au Seigneur, David décroche son regard du Seigneur et il va chercher, passez-moi l'expression, des combines pour sa sécurité. Et il pense que le mieux, c'est de passer dans le territoire des ennemis du peuple de Dieu. C'est le comble. Alors, c'est vrai que pendant un temps, tout semble aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. David obtient la faveur du roi de Gath, Achish. David va demander une ville au roi de Gath qui va la lui accorder. Et je lis au verset 6, « Et ce même jour, Achish lui donna Siklag. » Mais on s'aperçoit que, ayant décroché son regard du Seigneur, David n'est pas à la bonne place, parce que le comportement de David n'est pas celui d'un homme de Dieu. David va faire preuve de cruauté, il va se livrer à des mensonges, et pour vous en convaincre, je lis au chapitre 27 du premier livre de Samuel, le verset 8. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Chour et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Achish. Achish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses ?» Et David répondait, et il mentait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Jérakmélites et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire « Ainsi a fait David ». Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David, et il disait « Il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais ». La suite, c'est qu'à un moment donné, Achish va entrer en guerre avec Israël. Et David et ses gens veulent se joindre à l'armée d'Achish contre Israël. Achish, qui regarde David d'un œil bienveillant, accepte cela, mais les princes d'Achish réagissent intelligemment. Et ils disent au roi, mais une fois que la guerre va être enclenchée, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que David soit à nos côtés, il va se mettre du côté d'Israël pour nous battre. Et les princes font exclure David et ses gens de leur armée. Ce qui fait que David va revenir avec ses gens à Tsiklag. Et je lis au chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Je voudrais vous dire ceci. Quand nous allons chercher dans le monde des solutions à nos problèmes spirituels, au lieu de garder nos regards accrochés au Seigneur, tôt ou tard, nous allons le payer très cher. Je connais des jeunes gens qui ont voulu construire ainsi leur vie loin du Seigneur et qui, à un moment donné, ont tout perdu. Le diable sait ce qu'il fait. Il n'y a pas de bonheur à trouver dans le refuge au sein du monde. Et alors que David a voulu trouver refuge chez Achish, à un moment donné, il a tout perdu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons serrer cet avertissement sur notre cœur. Alors qu'est-ce qui se passe? Je lis au verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et vous remarquez ceci, c'est que non seulement David a des problèmes avec Saül et le peuple d'Israël qui est dans son giron. Il a des problèmes avec les princes du peuple dans lequel il est venu se réfugier. Et maintenant, il a des problèmes de la part des gens qui ont toujours été avec lui et qui l'ont soutenu. Parce que dans l'erreur de David, les gens qui l'ont suivi subissent aussi les conséquences des erreurs de David. Donc, David est dans une grande angoisse parce qu'il est en train de perdre tous ses appuis. Rien ne va plus pour lui. De quel côté qu'il se tourne, rien ne va plus. Il a décroché son regard du Seigneur. Quelle est la solution pour vaincre le découragement? C'est de raccrocher son regard vers l'Éternel. Et je le lis parce que c'est ce qu'il a choisi de faire dans la seconde partie du verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel. Et j'ai envie de dire « Alléluia !» Enfin, enfin, il raccroche son regard sur Dieu. David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je ? » L'Éternel lui répondit, parce que quand on le cherche, on le trouve, quand on demande, on reçoit, quand on frappe, il nous ouvre. L'Éternel lui répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Je voudrais revenir sur ce verset, la fin du verset 6. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alors je vais vous conduire maintenant vers un texte qui n'a rien à voir, mais rien du tout, avec ce que je suis en train de vous lire concernant David en tout cas. C'est dans le second livre de Samuel, le second livre de Samuel au chapitre 18. Je viens de vous lire que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. La version Darby dit « David se fortifia en l'Éternel son Dieu ». Et le mot hébreu a quelque chose de très intéressant. Il peut être traduit effectivement par « se fortifier », mais il veut dire aussi « se lier », « s'attacher fermement ». Et maintenant, j'aimerais vous lire un verset qui concerne la fin de la vie d'Absalom. Vous savez qu'il plus tard, il a engagé un coup d'État contre son père. Finalement, les choses se sont retournées contre lui. Je fais vite parce que ce n'est pas mon propos. Et puis, les gens de David ont poursuivi les gens d'Absalom. Ils ont poursuivi Absalom. Et je lis ce verset dans le second livre de Samuel, chapitre 18, verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et on sait que dans cette position-là, Joab va venir le mettre à mort. Il était monté sur un mulet, et le mulet pénétra sous les branches entrelacées du grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise. Elle fut prise au térébinthe. Eh bien, savez-vous que dans le texte hébreu, c'est le même mot que quand il est dit que David se fortifia en l'Éternel. C'est-à-dire, je comprends pas très bien. Eh bien, voilà. Dans nos moments difficiles, dans nos découragements, comme David, nous avons besoin d'accrocher, j'allais dire d'emprisonner, d'attacher solidement notre cœur, nos pensées, notre regard dans les branches solides et vigoureuses de l'Éternel qui est pour nous notre térébinthe tout-puissant. La tête d'Absalom a été prise dans les branches du térébinthe, et c'est le même mot, David se fortifia. Au fond, il s'est attaché fermement à l'Éternel. Et là, ce n'était pas pour mourir, mais pour vivre. Je voudrais terminer avec ce verset de l'Épître aux Colossiens, et puis une toute petite anecdote. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, regarde en haut. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Apprenons à compter sur le soutien d'un Dieu vivant et fidèle dans les circonstances difficiles que nous connaissons. Accrochons-nous à notre térébinthe divin. Matthew Henry, prédicateur anglais de la fin du XVIIe siècle, fut un jour attaqué par des brigands qui lui volèrent son argent. Il nota plus tard dans son calepin « Je suis reconnaissant ». Alors il ne s'est pas laissé décourager, hein. « Je suis reconnaissant ». Et il était reconnaissant pour quatre choses. La première, il a écrit « de n'avoir pas été volé plus tôt ». Deuxièmement, « de ce que les voleurs m'ont pris la bourse, mais pas la vie ». Troisièmement, « bien que ce fût toute ma fortune, ce n'était pas la vie ». Et quatrièmement, je suis reconnaissant d'être le volé et pas le voleur. Il faut toujours, avec l'aide du Seigneur, fixer nos regards en haut vers celui qui, dans les circonstances les plus difficiles, est capable de changer l'amertume en douceur, les ténèbres en lumière, le mal en bien. Il est celui qui, encore une fois, peut nous faire sortir de notre fosse, de notre citerne. Il est celui qui peut nous amener à piétiner notre découragement. Mon frère, ma sœur, que ces quelques paroles soient pour vous l'occasion d'une riche bénédiction. Amen.